France Culture, question du soir, Quentin l'a fait.
Faut-il réussir sa vie ? Le développement personnel répond par l'affirmative à cette question et trace un chemin illusoire sans doute pour tenter d'y parvenir en niant les expériences négatives inhérentes à l'existence humaine et en responsabilisant l'individu à outrance dans ses choix de vie. Alors faut-il absolument réussir sa vie ? Tout faire pour achever une vie accomplie ? Et si oui, à l'aune de quels critères ? Une vie réussie est-elle faite de pensée ou d'action, d'argent ou de morale, de rêve ? Ou d'humanité. Deux invités pour nous éclairer sur ce vaste sujet. Thierry Jobard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste et libraire, vous avez publié deux ouvrages aux éditions Rue de l'Échiquier. Le premier intitulé « Contre le développement personnel », c'était en 2021. Le second « Je crois, donc je suis » en 2023. Et je signale la publication en 2024 du livre intitulé quant à lui « Crise de soi, construire son identité à l'ère des réseaux sociaux et du développement personnel ». C'est aux éditions 10-18. Avec nous à distance, Marianne Chaillant, bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes professeur de philosophie, écrivaine, vous avez publié notamment l'ouvrage intitulé « Où est donc le bonheur ?» en 2021 aux éditions des Équateurs et en 2024 aux éditions de l'Observatoire. Ce livre intitulé « Écrire sa vie ». Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Et il faut préciser, pour commencer cette émission, le changement de pied que nous avons opéré quelques heures avant de discuter ensemble. Nous souhaitions intituler cette émission « Comment réussir sa vie ?» et chemin faisant, en réfléchissant avec l'équipe de Questions du soir, il nous est apparu peut-être plus judicieux de transformer cette problématique, cette question, en une nouvelle « Faut-il réussir sa vie ?» Est-ce que Thierry Jobard, cette nouvelle formulation vous plaît un peu plus ?
Oui, ça n'empêchera pas de répondre à la question initiale.
Et pas l'air emballé tout de même.
Si, non mais je réfléchis en même temps et également à cette autre question plus générale encore, mais plus problématique je crois. Qu'est-ce qu'une vie réussie ? Qui aurait pu être aussi le thème de départ, mais faut-il réussir sa vie ? Oui, c'est bien parce que faut-il, il y a une injonction derrière, d'où vient-elle ? De qui émane-t-elle ? Peut-on la suivre ? Est-elle sociale ou personnelle ? Voilà, ça, il y a pas mal d'angles d'attaque.
Marianne Chaillant, autant d'angles d'attaque que vous identifiez dans cette formulation-là, faut-il réussir sa vie ?
Eh bien, moi, quand vous m'aviez proposé la première question, qu'est-ce que réussir sa vie, cette question m'avait crispée, en fait. Je la trouvais agaçante, donc je suis bien contente qu'elle change. Je vous explique pourquoi je la trouvais agaçante. Et finalement, la substitution que vous faites permet d'exprimer d'emblée l'agacement qu'on peut avoir devant la question « qu'est-ce que réussir sa vie ?» C'est justement de souligner qu'il y a une forme d'injonction à réussir sa vie. Mais cette expression même, réussir sa vie, qu'est-ce que ça peut bien signifier ? Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait des vies ratées ? Et quand vous dites « faut-il réussir sa vie ?», vous mettez d'emblée l'accent hein, donc sur cette injonction à réussir sa vie qu'on va retrouver dans un discours ambiant qui est souvent repris par le développement personnel. Hein. Il faut réussir, on doit réussir, comme si la vie était une épreuve et que nous avions une injonction de performance, quoi. Donc c'est bien de poser la question, faut-il réussir sa vie ? Ça d'emblée, on met les pieds dans le plat, on montre qu'il y a une injonction générale. On peut même préciser que cette injonction, elle n'est pas simplement générale, on ne nous dit pas simplement « réussissez votre vie ». Parfois, il y a un contenu qui est apporté à ce qu'est cette vie, ce que serait cette vie réussie. Je sais pas, je pense qu'on est nombreux à avoir à l'esprit cette phrase malheureuse de Jacques Séguéla qui nous disait qu'un homme qui a 40 ans n'a pas une Rolex à son poignet, a raté sa vie.
50 ans, c'était quand même...
C'était 50 ans, ok. je vous êtes d'accord que ça change rien à cette phrase horrible. Et que il y a donc à la fois une injonction à réussir sa vie, mais il y a en plus un contenu qui est apporté. Et il n'y a rien de plus maltraitant, je crois, que cette injonction. Il n'y a rien de plus aliénant que le contenu qui nous est donné. Et peut-être que le meilleur moyen de ne pas rater sa vie, je ne dis pas de la réussir, mais de ne pas rater sa vie, serait de ne pas se perdre dans cette recherche d'une vie réussie, quoi. Peut-être que nous n'atteindrons jamais la complétude, on vaincra jamais l'absurde, on sera jamais justifié. Réussir sa vie est une illusion vaine, maltraitante, dont il faut se défaire d'emblée.
Alors si on tente de déconstruire d'emblée, Thierry Jobard, cette injonction-là, celle de réussir sa vie, à quoi peut-on juger une vie réussie ? À l'aune de quels critères, dans le fond ?
Ah ben c'est toute la question, parce que effectivement, est-ce qu'une vie qui n'est pas réussie est ratée ? Est-ce qu'une vie peut être un échec ? Ça me paraît difficile que toute une existence soit marquée par, par l'échec. C'est la notion de réussite, en fait, qui pose problème, parce qu'on a l'impression qu'il faudrait réussir comme on réussit une recette de cuisine ou le décapage d'un meuble. Donc, c'est cette espèce de visée ordonnée vers un but, comme si on était tendu toute son existence vers quelque chose, alors que l'existence est traversée, par des épreuves, par des manques, par des pertes, et que c'est justement au travers de ces épreuves que peut-être le sens qu'on peut donner à sa vie ou la direction qu'on peut lui donner va changer.
Je voudrais vous faire entendre l'extrait d'un film intitulé « Chronique d'un été » de Jean Rouch et Edgar Morin, un film qui date de 1961.
Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes heureux ?
Toujours, oui.
C'est vrai ?
Oui, oui.
Heureuse de vivre, malgré que j'ai 60 ans.
Vous avez 60 ans ?
Oui, et que je fais 20 km tous les jours pour venir travailler à Paris.
C'est pas vrai.
Je suis contente d'avoir la santé et un mari gentil.
Ça dépend.
Ça dépend de quoi ?
Ça dépend sur quoi ? Vous savez, question d'argent, non, on n'est jamais heureux quand on est ouvrier.
J'ai eu du bonheur, j'ai eu du malheur, j'ai eu un petit peu de tout dans ma vie. Ça ne peut pas être autrement, hein. Il faut bien partager un peu.
Êtes-vous heureuse ?
Oui.
Oui. Et vous, mademoiselle ?
Moi aussi, bien sûr. Nous sommes jeunes et il fait beau.
Lorsqu'on interroge les Français, Marianne Chaillan, le premier critère qui revient lorsqu'on leur demande ce qu'est une vie réussie, le critère fondateur, premier, c'est celui du bonheur. Une vie réussie, c'est une vie heureuse. Est-ce que vous allez dans ce sens-là ?
Là, il faudrait s'entendre sur ce qu'est le bonheur. Et il y a... sur ce sujet aussi, une injonction au bonheur, il faut être heureux. On peut le voir dans le fait que, dans cette petite question, ça va, qu'on se pose parfois, et comment il serait de mauvais goût de répondre non, ça va pas bien, comme si ne pas être heureux serait un aveu d'échec. Donc il y a une injonction au bonheur, et il y a une incompréhension de peut-être ce qu'est le bonheur, à supposer qu'il existe. On le représente comme une sorte de plénitude, de ciel bleu sans nuages. On a à la fois la santé, un mari gentil, une bonne situation économique. Bref, on coche toutes les cases de la to-do list de l'existence. Mais personne ne coche toutes les cases. Il n'y a pas de plénitude sans qu'il y ait aussi, des comme le disait Thierry, des manques, des creux. Et si le bonheur, on ne le voit pas comme une somme de victoires, comme un ciel bleu sans nuages, comme uniquement de la joie, parce que dans ce cas-là, personne ne serait heureux. Si on comprend le bonheur comme nous invitent à le faire des philosophes comme Montaigne ou comme Nietzsche, c'est-à-dire à la fois le ciel bleu et les nuages, à la fois la joie et les peines, à la fois les pleins et les manques, et qu'on est capable, en regardant notre vie dans toutes ses dimensions, de lui donner notre assentiment et de lui dire, un peu comme un marié devant l'autel, en regardant notre vie, nous lui disions « je te prends pour le meilleur et pour le pire », alors oui, on pourrait se dire heureux. Et de ce point de vue, peut-être qu'on pourrait dire qu'on a réussi sa vie, non pas parce qu'il n'y aurait en elle que des choses positives, mais parce que nous accepterions de notre existence toutes ces dimensions.
Thierry Jobard, votre point de vue, le bonheur, dans le fond, c'est un mirage lorsqu'on tente de juger la qualité d'une vie, d'une existence et même peut-être sa réussite ?
Alors si on part du principe que le bonheur est un état constant et durable, oui, on risque de se casser les dents plus d'une fois. J'ai coutume de dire que le bonheur, c'est la bonne heure, c'est-à-dire le moment fugace de plénitude qui existe. Et c'est déjà pas mal, je trouve. Et puis, je pense souvent à cette phrase de Flaubert qui dit que pour être heureux, il faut trois choses, être bête, être égoïste et être en bonne santé. Mais si la première condition vous manque, tout est perdu. Donc voilà, il y a des imbéciles heureux, semble-t-il. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut chercher quelque chose qui serait un équilibre, parce qu'on n'est pas forcément malheureux si on n'est pas heureux, et la plupart du temps je pense qu'on est dans cet état d'entre-deux, qu'on aménage comme on peut, sachant que nous sommes tous à la merci de choses qui peuvent arriver sans prévenir, hélas, et ça aussi, effectivement, ça fait partie du oui nietzschéen, il faut accepter ça également. Alors, le développement personnel tourne très bien les choses, puisqu'il va vous expliquer qu'en fait, il n'y a pas d'échec, mais juste des opportunités.
Et que... l'échec, c'est l'opportunité de rebondir et de réussir un peu plus tard.
Voilà, c'est ça. Et on ressort la phrase sempiternelle de Nietzsche, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et c'est faux. Il y a des choses qui ne nous tuent pas, mais qui nous affaiblissent, peut-être même pour toujours. Donc voilà, c'est toujours un tableau en demi-teinte. On aimerait bien que les choses soient simples, mais l'être humain est un phénomène complexe.
Et dans le même temps, Marianne Chaillan, est-ce que ce n'est pas une position, si je puis dire, de philosophe, de dénigrer le bonheur ? On sait que c'est une notion qui est est relativement peu appréciée dans l'histoire de la philosophie. C'est une notion qui écarte de la pensée, de la vérité, peut-être même parfois du juste. Lorsque les Français répondent qu'une vie réussie, c'est une vie faite de bonheur, c'est quelque chose qui ne s'entend pas du tout, selon vous ?
Non, au contraire, ça s'entend, mais il faut prendre garde à ce qu'on met sous le mot de bonheur. Si on est victime de la compréhension commune du concept de bonheur, une compréhension un peu matérialiste, ou une compréhension, que peut soutenir le développement personnel, où finalement, il n'y aurait pas de négativité, puisque toute expérience négative serait l'occasion d'un tremplin, comme on venait de le dire. Si on comprend le bonheur comme un état de plénitude, alors voilà pourquoi les philosophes nous mettent en garde. Non pas qu'il y ait une forme de mépris du tout, mais attention, cette recherche du bonheur pourrait être le moyen le plus sûr d'être profondément malheureux. Thierry citait Flaubert, cette très belle phrase. Flaubert dit aussi qu'il est persuadé que le bonheur est un mythe inventé par le diable pour nous désespérer. C'est-à-dire, attention à ce que vous mettez derrière l'idée de bonheur, pensez à Madame Bovary. Comme Madame Bovary croit qu'un jour elle atteindra cette plénitude dans son couple, dans sa vie sociale, etc., tout ce qu'elle vit est forcément en défaut par rapport à cet imaginaire du bonheur. Mais les philosophes ne nous disent pas de faire le deuil du bonheur. Ils nous disent comprenez-le autrement, comprenez l'essence de la vie. La vie ne pourra pas vous apporter ce bonheur totalement illusoire. En revanche, si vous parvenez à aimer la vie telle qu'elle est, à l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui le rire des enfants, pour citer Renaud, alors vous serez heureux, non pas tel qu'on peut le concevoir d'une manière ordinaire, mais hélas toxique, puisque ce bonheur-là, vous ne l'atteindrez pas. Tâchons, et c'est difficile, d'apprendre à aimer la vie, de faire ce test, que Nietzsche appelle le test de l'éternel retour, c'est-à-dire à observer notre vie, à en prendre les moments négatifs et les moments positifs, et à donner notre assentiment, d'apposer ce grand oui devant la totalité de l'existence. Et là, oui, on sera heureux. Donc, il n'y a pas chez les philosophes un mépris du bonheur. Il y a une alerte. Faites attention à ne pas vous tromper. Si vous pensez que l'état de plénitude, c'est la définition de Kant, lorsque Kant dit le bonheur, c'est la satisfaction de tous nos désirs, en intensité, c'est-à-dire degré maximum, en extension, tous nos désirs, et en protension, en durée. C'est ça, au départ, la définition du bonheur. C'est une plénitude, une satisfaction, tous nos désirs, intense et pour toujours. C'est une illusion. Vous serez extrêmement malheureux si vous recherchez ce bonheur-là. Mais convertissez votre concept de désir, et là, on peut atteindre quelque chose comme le bonheur, et là, peut-être, quelque chose comme une vie réussie.
Pour en finir avec le bonheur, la voix de Vladimir Jankélévitch, qui s'exprimait en 1980 dans un entretien avec Bernard Pivot, dont apostrophe, évidemment.
Le bonheur est capricieux, vous savez, il est comme l'amour. Il vient au moment où s'y attendait le moins. Il vaut mieux avoir de l'argent que ne pas en avoir. Il vaut mieux pouvoir voyager que ne pas pouvoir voyager. Il vaut mieux pouvoir aller au théâtre et au concert que d'en être privé. Mais une fois que vous réunissez toutes ces conditions et que vous avez énormément d'argent pour faire tout ce que vous pouvez, tout ce qui vous plaît, eh bien vous sentez subitement un grand désert en vous. Une grande solitude, n'est-ce pas ? Et c'est pourquoi il y a tant de milliardaires qui s'ennuient. Nous les envions. Mais eux, ils s'ennuient, quelquefois ils se suicident tellement ils s'ennuient. Ils sont au comble de leurs vœux et ils ne sont pas heureux. Alors qu'est-ce qu'il leur faut pour être heureux ? Qu'est-ce qu'il leur faut ? Eh bien, il leur faut probablement un peu d'insouciance, d'innocence, un retour à l'innocence. Si je suis heureux, et je ne m'en aperçois même pas, car le véritable bonheur est inconscient de soi. Si je me dis, ah, ce que je suis heureux, oh, comme je suis heureux, nom de Dieu, ce que je suis heureux, alors il est temps de se méfier. Ça veut donc dire que mon bonheur est précaire, qu'il va se dissiper, n'est-ce pas ? Qu'il est fragile, qu'il est à la merci des circonstances. Quand je suis vraiment heureux, je n'en sais rien. Le bonheur est naturellement innocent. Alors, quelqu'un qui jouerait du piano pour se dire « ça va me dissiper mon ennui, mon spleen va disparaître » et qui s'en sert comme un médicament, comment voulez-vous qu'il soit heureux ? C'est pas des conditions pour être heureux. Je suis heureux en ce moment. Un peu fatigué, mais heureux. En tout cas, l'idée que je pourrais l'être, déjà me rend un peu heureux. On est un peu heureux à l'idée qu'on pourrait l'être. Et que c'est à la portée de tout le monde. Et qu'il vient subitement comme une grâce, descend sur vous au moment où s'y attendez le moins.
Qu'est-ce qui distingue, Thierry Jobard, l'analyse de Vladimir Jankélévitch à propos du bonheur et la vision du bonheur portée par le développement personnel ? Beaucoup de choses, non ?
Oui, parce que le bonheur, c'est quand même un objet massif. Donc le développement personnel a trouvé une petite astuce, il parle moins de bonheur que de bien-être. Alors quelle est la différence entre les deux? C'est que le bien-être est holiste, c'est-à-dire qu'il y aura le corps et l'esprit, mais aussi le corps. C'est-à-dire qu'il faut que, effectivement, et là il a beau jeu de trouver des références prestigieuses, un corps sain dans un esprit sain, on se dit oui, effectivement, c'est frappé au coin du bon sens. Mais du coup, ça reporte un degré supplémentaire d'exigence, parce qu'il faudrait à la fois être heureux, disons, psychologiquement, mentalement, apaiser son âme, et de l'autre côté aussi avoir un corps qui soit parfaitement affûté, réactif, toujours disponible, toujours répondant. Mais alors ça, évidemment, c'est comme le bonheur qui ne dure pas. Le corps qui répond à volonté, ça ne dure qu'un certain temps. Et c'est aussi pour ça que la question initiale, faut-il réussir sa vie, en pose une autre. À quel moment peut-on décider, peut-on savoir si on a réussi sa vie?
Alors quand est-ce qu'on l'évalue ça? Est-ce que c'est justement quand la mort approche ou bien à chaque étape importante de son existence, on peut, Thierry Jobard, dire si oui ou non on a réussi un segment, même c'est déjà pas mal, un segment de son existence?
Ben, on est pris dans un devenir, c'est-à-dire que moi à 15 ans, ou moi à 30 ans, ou moi à 60 ans, je pense pas que j'aurai les mêmes rêves, les mêmes idées de réussite. Alors on peut en combler certaines, on peut se rendre compte qu'elles étaient illusoires aussi, on peut s'être trompé, mais en toute logique, comme pour la recette de cuisine, c'est une fois qu'on a terminé qu'il faut savoir si on l'a réussi. Mais est-ce qu'on est dans l'état d'esprit et dans la sérénité, au seuil de la mort, de se dire « Ah, oui !» En toute objectivité, ce qui est déjà très discutable, j'ai réussi ou je n'ai pas réussi ma vie. Mais il faudrait pour ça qu'on soit débarrassé de toutes les hypocrisies, tous les mensonges, tous les biais cognitifs qu'on a vis-à-vis de soi-même, parce qu'on ne se connaît pas si bien que ça.
Marianne Chaillant, je vous pose la question, alors est-ce que c'est au seuil de l'existence que l'on doit évaluer ou non si notre propre vie nous semble réussie ?
En vous écoutant poser cette question, j'avais à l'esprit la chanson de Frank Sinatra, My Way, et cette, vous vous rappelez, où il retrace ses chemins, les chemins qu'il a empruntés, les moments qu'il estime avoir échoué et ceux qu'il a plutôt réussi, et l'assentiment qu'il se donne à lui-même en disant, bien, j'ai fait mon chemin tout de même. Donc, j'aurais eu tendance à vous répondre que peut-être, effectivement, c'est une position qu'on peut adopter au terme de sa vie, en tout cas une position rétrospective. Et en même temps, je me demande si vraiment on peut jamais répondre à cette question, si cette question même est pertinente, à savoir est-ce qu'on a réussi sa vie. Est-ce que la question ne serait pas plutôt la vraie question à se poser, non pas comment réussir ma vie, mais comment réussir à vivre? C'est-à-dire peut-être qu'en fait, on ne réussit pas sa vie, mais on réussit à vivre. Quand on a accepté ce que je disais tout à l'heure, quand on a accepté les lois indépassables de l'existence, à savoir, il ne s'agit pas de faire une somme de ce qu'on aura parcouru à la fin de notre vie, de tirer le trait de l'addition et de se dire, tiens, il y a plus de positifs que de négatifs, donc j'ai plutôt réussi ma vie. Non, je demande si c'est vraiment pertinent le concept de réussir sa vie, mais si le concept le plus important n'est pas celui de réussir à vivre, c'est-à-dire à accepter les lois de l'existence, à savoir qu'il y aura de l'échec, si le concept est pertinent, en tout cas qu'il y aura de la souffrance. Il y aura de la souffrance et qu'il y aura des manques, qu'il y aura des regrets.
Et cela résonne, Marianne Chaillant, me semble-t-il, hein, vous me direz, avec ce que vous disiez un peu plus tôt lorsque vous employez l'expression « ce grand oui de la totalité de l'existence ». On se dit en creux, en vous écoutant, que peut-être qu'une vie réussie, c'est, vous l'avez dit, c'est réussir à vivre pleinement une vie, c'est-à-dire à vivre l'ensemble de la palette des sentiments et des expressions humains. C'est vivre, dans le fond, une vie pleinement humaine, Marianne Chaillant.
Oui, alors, cette idée de vie pleinement humaine, elle résonne beaucoup à mes oreilles parce que je suis assez, vous le voyez, critique à l'égard de la question qu'est-ce que réussir sa vie? Mais pourtant, quand je l'ai rencontrée, cette question, comme beaucoup, je pense, de vos auditeurs, c'était en terminale avec la découverte de la philosophie. Et les philosophes, en tout cas mon professeur, nous disaient que les Grecs nous demandaient qu'est-ce qu'une vie réussie? Qu'est-ce qu'une vie bonne? Quel est le meilleur genre de vie? Et moi, à l'âge physique que j'avais à l'orée de ma vie, je trouvais cette question essentielle. Je voulais savoir comment m'y prendre pour réussir ma vie. Et la réponse qu'apportait Platon, en l'occurrence, c'était que si nous autres humains, nous sommes l'alliance d'un corps mortel et d'une âme immortelle, une vie réussie, c'était une vie consacrée aux soins de l'âme. Et c'était donc une vie proprement humaine, pas une vie consacrée à ce qui en nous est commun avec l'animal. Donc consacrer sa vie aux soins du corps, à tout ce qui est de l'ordre du sensible, à la quête des richesses, à la quête à sculpter son corps, tout ça est une vie qui n'accomplit pas son essence. Et une vie réussie, à ce moment-là, était une vie qui accomplissait l'essence humaine, à savoir qui accomplissait la vie de l'esprit. Alors vous vous doutez que pour l'étudiante que j'étais en philosophie, c'est une vie que je suis devenue, c'est une définition qui me convenait, mais qui est tout de même un peu pratique et orgueilleuse, je trouve, de dire que quand les philosophes se répondent à eux-mêmes, nous qui avons choisi de consacrer notre vie à la pensée, nous avons réussi. Et en même temps, ça me semblait très pertinent, puisque Platon, en gros, demandait est-ce qu'il vaut mieux être Achille ou Socrate. Une vie réussie, c'est de choisir la vie de Socrate, parce que Socrate soigne son âme. Est-ce qu'il vaut mieux être Steve Jobs ou Marie Curie? Les Grecs répondaient Marie Curie. Voilà. Il faut. Et Hannah Arendt, bien plus tard, qui s'est nourrie elle-même de philosophie grecque, répond un peu à votre question, Quentin, parce qu'elle nous dit. Une vie dépourvue de pensée n'a rien d'impossible. Elle ne réussit pas à développer sa propre essence, c'est tout. Elle n'est pas simplement dépourvue de signification, elle n'est pas tout à fait vivante. Voilà, c'est dur hein, comme phrase, mais ça reprend cette idée qu'une vie proprement humaine, une vie réussie, serait une vie dans laquelle on a développé notre humanité. Et qu'est-ce qui fait de nous des hommes, notre capacité à penser?
Et elle ajoute, Hannah Arendt, hein, puisque j'ai la suite de la citation sous les yeux, ouais. Ça tombe bien, les hommes qui ne pensent pas sont comme des somnambules, Thierry Jobard. Cette vision, là aussi, cette analyse d'Hannah Arendt, hein, qu'elle introduit notamment dans La vie de l'esprit qui paraît en 1981, est-ce qu'une vie sans pensée, une vie sans méditation, une vie sans recul, au fond, sur sa propre vie, est-ce que c'est une vie qui, par construction, manquerait d'être accomplie?
Ce sont des propos de philosophes. Donc, bien sûr, ils vont parler de la pensée et ça leur paraît quelque chose d'absolument indispensable. Comme la culture devrait l'être, comme l'amour devrait l'être, mais la justice aussi, la fraternité. Mais j'ai tendance à croire qu'on peut très bien vivre sans pensée. J'évoquais tout à l'heure les imbéciles heureux. Pourquoi sont-ils heureux? Parce que ce sont des imbéciles.
Oui, mais donc ce sont soit des imbéciles, soit des somnambules.
Mais oui, mais peut-être que c'est ça finalement. Peut-être que c'est ça qu'il faudrait. Je suis pas sûr.
Vous dites avec un sourire en coin. Je me permets de le dire pour les auditeurs quand même.
Mais parce que si on estime qu'on pense déjà, bon, admettons-le, nous pensons. C'est pas une sinécure non plus. C'est ça le problème, c'est que la réflexivité. Alors il y a la réflexion sur les objets et la réflexivité sur soi-même. C'est quand même particulièrement inconfortable tout ça, parce qu'effectivement on a tendance à voir ce qui ne va pas. On a tendance à chercher là où ça gêne, où ça démange, et à interroger ce qui nous paraît évident. Et c'est pas très confortable comme existence, en fait. J'ai peur que, là encore, je crois que c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que, oui, penser, c'est bien, mais ne faire que ça, je pense qu'il faut vivre avant de penser.
Mais je vous pousse dans vos retranchements. Est-ce que l'objectif, c'est d'être confortable? Est-ce qu'une vie réussie, on peut discuter du terme, là aussi, une vie réussie, une vie accomplie, c'est une vie essentiellement confortable?
Mais je pense que des gens se satisfont du confort, oui, et d'autres se satisfont de l'action, de l'activité permanente, du besoin d'optimiser toutes leurs facultés. Je pense que c'est très variable, je ne crois pas qu'il y ait un seul modèle. En fait, on reste sur l'idée grecque, encore aujourd'hui, effectivement, que l'âme serait l'objet principal, la chose à préserver et à soigner, mais c'est un tout, en fait. Il y a aussi cette idée que, effectivement, penser, ça amène à s'ouvrir sur l'altérité, sur l'étranger. Et à partir du moment où on considère que nous faisons partie d'une commune humanité, ça devient quand même très très difficile, ne serait-ce que d'envisager d'être heureux, sachant que nous ne le sommes pas tous et que nous ne risquons pas de l'être.
Alors, Marianne Chaillon, est-ce que vous pensez qu'il faut parfois se résigner, hein, ça peut être l'expression adéquate, se résigner à être soit un imbécile, soit un somnambule.
Si c'est la solution pour gagner le contentement, qui serais-je pour juger? Hélas, aimant la philosophie, je fais partie de ceux qui sont torturés par des questions sans cesse, et donc je ne parviens pas à cet état de quiétude que je pourrais obtenir dans cette espèce de voilà d'absence de questionnement permanent. Mais
au-delà, pardonnez-moi, je me permets de vous couper, vous êtes à distance, oui. Mais au-delà de la position de philosophe, est-ce que des somnambules, est-ce que des imbéciles, est-ce que même, j'allais dire, pour les citoyens que nous sommes, les êtres émancipés que nous cherchons à devenir, est-ce que c'est quelque chose de souhaitable?
Mais c'est drôle parce qu'il y a un élève qui m'a dit il y a deux jours, oh, en philo, vous utilisez beaucoup de grands mots pour dire pas grand-chose, et puis vous vous posez des questions, vous vous torturez l'esprit, moi... Ne pas me poser de questions, ça me convient très bien. Je suis content dans mon ignorance. Pourquoi vous allez faire exploser toutes les certitudes peut-être illusoires, mais dans lesquelles je me sens si bien?
Ça fait plaisir à Thierry Jobard, je vous le dis.
Oui. Et je me suis, j'ai bien compris et je me suis dit, au fond, s'il est content comme ça, tant mieux. Mais en même temps, la réponse que j'ai essayé de lui apporter, et ce sera tout l'enjeu de notre année, que l'année que je vais partager avec lui comme enseignante, c'est que la philosophie répondrait que cette quiétude confortable, c'est vraiment, c'est une position de somnambule où on est dans sa propre vie, au fond, pas aux commandes. C'est-à-dire que est-ce que s'interroger sur le sens qu'on peut donner, peut-être même pour y répondre qu'il n'y aura pas de sens à donner à sa vie, est-ce que c'est pas le moyen de ne pas simplement être en vie, mais d'être existant? Parce que c'est deux concepts très différents. Vivre, la question c'est qu'est-ce qu'une vie réussie? On vit très bien, c'est une chance que nous avons là, mais certains se contentent de vivre, c'est-à-dire d'être simplement là, biologiquement parlant. Exister, c'est autre chose, c'est s'emparer de sa vie pour tâcher de l'habiter de la façon la plus authentique possible. Et donc, est-ce que au fond... choisir cet inconfort, se poser des questions qui vont venir bouleverser, bousculer nos certitudes, c'est pas le moyen aussi, en acceptant de se perdre un peu, de mieux se trouver à la fin.
Thierry Jobard, pourquoi est-ce que le développement personnel que vous critiquez tant, que vous décortiquez tant, pourquoi est-ce que dans le fond cela fonctionne à ce point? Est-ce que les consommateurs, les autres, viennent y chercher aussi ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs?
Alors il y a beaucoup de raisons, des raisons vraiment contemporaines, d'autres plus anciennes qui s'étalent sur la longue durée, mais il ne faut pas oublier que nous sortons de 2000 ans de christianisme. Nous en sommes sortis avec des étapes, des temporalités différentes, mais pendant deux millénaires, on nous a expliqué que la vraie vie était ailleurs. À partir du moment où il n'y a plus de paradis, ni d'enfer, ni même de purgatoire, la vie c'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant, donc il faut aller vite.
Et pas seulement dans sa dimension religieuse, il n'y a plus d'idéologie, donc d'idéal politique, et le présent l'emporte sur l'avenir et la construction aussi d'un projet collectif ?
Également. Même si on est dans une espèce de société de projet, en tout cas au niveau du monde entrepreneurial, il faut avoir des projets. Même dans la vie de tous les jours, d'ailleurs, il faut absolument avoir des projets, ce serait peut-être un sujet d'une autre émission. Mais il y a cette espèce d'urgence et cette façon qu'il faut optimiser chaque chose, sachant que, et c'est le présupposé de base du développement personnel, nous avons en nous des ressources insoupçonnées qu'il s'agit de mettre au jour et d'exploiter afin de mieux se connaître, être heureux, mieux communiquer avec les autres, faire la paix avec son passé, etc., etc., etc. Mais tout ça, finalement, c'est simplement la recherche de vertus contemporaines ou de valeurs qui seraient l'authenticité, qui n'est jamais définie, la résilience, l'autocompassion, ces choses-là, une forme d'agilité, cette capacité à toujours réagir, à toujours faire face. On le disait, il n'y a pas d'échec. Hein. C'est juste un marchepied vers du meilleur. Ça conduit finalement cette intensité recherchée à une forme d'épuisement, épuisement professionnel et épuisement personnel. C'est une forme d'illusion parce qu'il ne faut pas oublier que le développement personnel, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, est quand même quelque chose d'assez impersonnel puisqu'on va nous mettre à disposition une ou des méthodes ou des processus qui s'adressent à peu près à tout le monde, puisque les livres vont se vendre par dizaines, voire centaines de milliers d'exemplaires, sans parler de tout le reste. Et comme si nous étions tous finalement en attente et de la même chose, en attente des mêmes objectifs, conformés selon le même moule. Donc tout ça, c'est... voilà. Et tout ça par des gens qui nous expliquent et qui partent de leur expérience personnelle, qui doivent finalement servir d'exemple, que si eux y sont parvenus, vous, vous y parviendrez également.
Marine Chaillant, la question en miroir, c'est celle des ratés, celle du ratage. Est-ce que l'on peut rater sa vie? Qu'est-ce qu'une vie ratée? Est-ce que c'est une question qui a plus de sens selon vous?
Non, pas plus. Non, si le concept de réussir me paraît peu pertinent, celui de rater me paraît tout aussi peu. Je pense vraiment que la question n'est pas celle de savoir si on a réussi ou si on a échoué sa vie, mais si on a réussi à vivre ou si on n'a pas réussi à vivre. Et c'est-à-dire, je crois, et ça rejoint la question, le fait de se débarrasser de la question, est-ce qu'on a accepté la négativité, est-ce qu'on a abandonné la recherche de la performance, est-ce qu'on a intégré que notre existence serait faite de creux et de pleins et qu'il faut s'en contenter, voilà.
Qu'est-ce que vous pensez, Marine Chaillant, du discours autour de la méritocratie, hein, le discours selon lequel on aurait réussi lorsqu'on l'aurait mérité, lorsqu'on aurait travaillé à cet effet, lorsqu'on se serait donné à fond pour passer la marche supérieure, avec le pendant qui va avec, hein, celui du discours de responsabilité. Et si on échoue, c'est bien notre faute.
Oui, ce discours sert à conforter l'ordre social. C'est une illusion absolue. C'est tout à fait une erreur. Et je citerai celle que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur, Chantal Jacquet, qui a étudié le phénomène des transclasses, ces personnes qui passent d'une classe sociale à une autre et dont parfois sur lesquelles on fait porter la lumière pour dire, vous voyez, on peut à force de volonté réussir sa vie. Et elle, l'étude qu'elle fait de ces parcours de transclasse sert à dire qu'il ne s'agit en aucune manière d'un effet de la volonté. Ce ne sont pas des self-made men, mais ce sont des trajectoires qui sont constituées par tout un certain nombre de déterminismes. Si Zidane est devenu Zidane, il ne le doit pas à son seul mérite, mais c'est une coproduction en fait, un ensemble de facteurs, un ensemble de rencontres, un ensemble de situations. Un parcours de vie n'est pas du tout le fruit d'une volonté singulière qui parce qu'elle est forte, tracerait sa trajectoire, mais c'est une co-construction, et donc l'idée méritocratique sert simplement à justifier l'ordre social, à nous faire croire que ceux qui obtiennent beaucoup le méritent, et ceux qui n'obtiennent pas, c'est parce qu'ils ne le méritent pas. Je pense que ce discours est une imposture qui a des fins politiques, en fait.
Thierry Jobard, est-ce que le développement personnel, c'est la traduction par le marché de cette idéologie du mérite, de cette vision même du mérite adossée au parcours individuel?
Ah oui, c'est tout à fait ça, c'est une mise aux normes. C'est-à-dire que si on suit les préceptes du développement personnel, on se rend compte qu'on pose un individu, le « moi », plus ou moins authentique, face à une société qui serait le règne des faux-semblants, des hypocrisies, des masques, et le moi tout plein d'authenticité et de sincérité et transparent vis-à-vis de lui-même, déjà bonne chance pour y parvenir, lui va réussir à, par capillarité, par agrégation, il va se sentir bien, donc il va faire le bien, donc les autres autour de lui vont faire de même, et comme ça, les choses vont se répandre, il y a une espèce d'avant-garde éclairée, comme ça, du développement personnel. Mais tout ce qu'on voit au bout du compte, c'est que c'est juste un travail sur soi, ça reste un enfermement sur soi, épuisant, je l'ai déjà dit, et qui ne remet jamais en cause les dysfonctionnements structurels. Jamais. Et c'est bien ça le problème, c'est que non seulement il élude la possibilité de l'action collective qui, à mon sens, est la seule possible et valable, et en même temps, il conforte un ordre établi, effectivement.
Marine Chaillant, si on s'amuse là encore à faire une propre critique de la question que nous posons dans cette émission, faut-il réussir sa vie? Est-ce que le problème de cette question, c'est qu'elle n'explique pas en sous-jacent que l'on pourrait déterminer le cours de notre propre vie, que en fait nous ne serions pas faits de déterminisme, mais uniquement de choix individuels.
Vous voulez dire, est-ce que cette question a un présupposé, et le présupposé du libre arbitre, c'est
absolument.
Ça ? Oui, c'est en effet, il y a ce présupposé. Mais au fond, on pourrait dire aussi qu'une vie est réussie même si elle était tissée par des déterminismes. Mais je pense que là encore, et d'ailleurs, ces déterminismes ont fait dire, je ne sais pas si j'ai cité cette citation, à Sartre, qui pourtant lui pense qu'on peut être l'auteur de notre vie et que donc, si on réussit, c'est parce qu'on l'a mérité, on s'est efforcé, et si on a échoué, c'est qu'on ne s'est pas assez efforcé. Mais Sartre, lorsqu'il exprime la thèse de ses adversaires, donc ceux qui croient au déterminisme, c'est un peu le discours qu'on a tenu, nous, il résume très bien notre pensée par une phrase qui répondrait très bien à notre question, l'histoire d'une vie, quelle qu'elle soit, est l'histoire d'un échec. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire par là que si on croit qu'une trajectoire n'est pas l'effet d'une volonté, mais la somme des influences et des déterminismes que subit un sujet, alors une vie est un échec, quel que soit son contenu, parce que c'est l'échec de la volonté. Voilà, parce que le sujet n'a pas été l'auteur de sa propre vie. Je crois que de ce point de vue, on peut se mettre d'accord, l'histoire d'une vie, quelle qu'elle soit, est l'histoire d'un échec, c'est-à-dire que il ne nous appartient pas, c'est une illusion d'être l'auteur de sa vie. Là encore, c'est beaucoup d'ouvrages de développement personnel ont ce titre, hein, « Devenez l'auteur de votre vie ». D'ailleurs, c'est pour ça que j'en joue dans mon titre, hein, « Écrire sa vie », je reprends ce titre, mais pour mieux le tordre, pour mieux de tordre cette injonction, quoi. Voilà, donc non, nous ne serons pas l'auteur de notre vie. Néanmoins, certains philosophes comme Spinoza, sans nier notre servitude, sans nier que nous soyons pris dans des déterminismes, nous dit, et peut-être ça serait ça, au fond, réussir sa vie, qu'on peut essayer de d'œuvrer pour diminuer notre part de passivité et pour augmenter, autant que faire se peut, notre part d'activité. Voilà, peut-être visons modestement une forme de, par la compréhension qu'on a des déterminismes qui nous traversent, de gagner cette liberté-là qui n'a rien à voir avec l'illusion du libre-arbitre.
Vous êtes d'accord, Thierry Jobard, avec cette conclusion partielle avancée par Marianne Chaillan ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a une... Je plaisantais, c'était par provocation, des histoires de somnambules et d'imbéciles heureux tout à l'heure, hein, évidemment, mais je pense que faire quelque chose... Ouais, mais faire quelque chose, c'est quand même, selon certains principes qui sont finalement assez peu nombreux et assez simples, mais faire quelque chose avec, avec tolérance, avec ouverture, avec humilité, voilà, c'est on fait les choses... On aide les autres, par exemple. Voilà, j'ai pas besoin de m'interroger éternellement, de me poser des questions. Je fais quelque chose qui est valable et qui est incontestablement valable. Et pour finir sur la question, ce serait bien en peine si j'arrivais à la fin de ma vie de demander est-ce qu'elle est réussie à ceux qui me connaissent et qui me côtoient. Je pense que chacun aurait beaucoup de surprises, quand bien même on aurait une complaisance vis-à-vis de soi-même en se disant que oh, finalement j'ai plutôt pas trop mal réussi.
Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, d'avoir réussi à contourner, triturer ce sujet. Thierry Jobard, vous êtes essayiste et libraire. Vous avez publié deux ouvrages aux éditions de la Rue de l'Échiquier. Le premier, Contre le développement personnel. Le second, Je crois donc je suis. Et je signale la publication en 2024 de cet ouvrage signé par vous-même également, intitulé Crise de soi, construire son identité à l'ère des réseaux sociaux et du développement personnel. C'est aux éditions 10-18. Et Marianne Chaillan, professeure de philosophie, écrivaine, vous avez publié Où est donc le bonheur? C'est en 2021. Aux éditions des Équateurs et Écrire sa vie en 2024 aux éditions de l'Observatoire. Merci encore à vous deux et merci à celles et ceux qui ont fait cette émission. Juliette Mouélic, Stéphanie Villeneuve, Diane de Vancey. Et à suivre, juste après le journal, une autre question vaste encore. Peut-on faire l'histoire des autres ? On en parlera avec l'historien Antoine Lilti.